Neptune FM sur la côte vendéenne. Neptune FM. Il est 21h. Neptune FM. Écoutez et découvrez. Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
On m'entend. Allô, allô. Je recommence. Ciao, ceux. Donc, bonsoir. Bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler de tout plein de choses. Donc, on aura la chronique du volume 28 de Belzebub, la chronique du volume 8 de Dengeki Daisy. On aura aussi la chronique du volume 23 de Blue Exorcist. Donc, tout ça, c'est paru aux éditions Kazé. On aura ensuite un petit point sur les sorties manga de la semaine. Enfin, je dis petit, mais il est quand même pas mal gros. La rentrée approche, donc forcément, les sorties arrivent aussi. Et on aura ensuite trois petits mangas des éditions Glénat. On aura la présentation de L'Ère des Cristaux, la chronique du volume 22 de Altaïr et la chronique du volume 4 du Couvent des Damnés. Et on finira avec une petite news musicale concernant le nouvel album de Bucktick. Voilà, on va donc commencer avec la première chanson de l'émission, c'est Desire de Lunacy. Et on viendra juste après pour la chronique du volume 28 de Belzebub.
Oh,
Donc c'était Lunacy avec la chanson Desire. On passe maintenant à la chronique du volume 28 de Belzebub. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre action-comédie qui a été écrit par Tamura Ryurei, prépublié dans le Shukan Shonen Jump et traduit par Thibaut Desbief. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec un total de 28 volumes qui termine la série, et la version française est parue aux éditions Kaze avec également 28 tomes. Et donc ce volume 28 est sorti le 21 octobre 2015 au prix de 6,79€. Le résumé de ce tome: existe-t-il plus effrayant et caractériel que le diable suprême lui-même? Eh bien oui, sa mère. Tous aux abris, grand-mamie débarque sur Terre et a la gâchette facile lorsqu'il s'agit d'assouvir ses ambitions pour son dernier petit-fils. Objectif: 100 amis. La bande s'offre alors une petite cure de jeunesse, plus réussie pour certains que pour d'autres, pour accompagner Baby Bill lors de ses premiers pas à la crèche. Avant de tirer sa révérence, Oga et compagnie vivent des dernières aventures où il est question d'îles désertes, d'héroïsme, d'amour et de retour vers le futur. Vous reprendrez bien un peu de Belzebub, n'est-ce pas? Alors, que le temps passe vite. À peine Oga a-t-il eu le temps de réaliser ce qui lui était arrivé que Baby Bill s'apprête déjà à rentrer à la crèche. Seulement voilà, la grand-mère de Bill en a profité pour rendre une petite visite surprise à son petit-fils et elle veut que sa rentrée soit parfaite. Autrement dit, il faut que Seigneur Bill ait impérativement 100 amis. Sans quoi, Oga et Furuichi se coltineront leur nouvelle forme de bébé pour un bon moment. Et voilà, c'en est bel et bien fini des aventures de Baby Bill et de son Oga de père. Donc autant être clair, impossible de ne pas cacher sa déception tant le backlash de Belzebub devient évident à partir du dernier quart de l'aventure. Un gâchis qui n'aura eu de cesse d'être symbolisé par le personnage de Tojo, aka le Vegeta de la série, qui au fil des tomes ne fera qu'être sous-exploité encore et encore. Tojo était puissant, charismatique et aurait mérité d'être le rival de Tatsumi Oga en prenant sous sa coupe le grand frère de Baby Bill, N.O. Donc ça aurait été logique de procéder ainsi, mais au lieu de ça, Yuhei Tamura ne fait que montrer à quel point Tojo était puissant sans pour autant le mettre en avant. Malgré tout, Belzebub aura eu ses moments de rigolade et de baston parfois intenses, comme les deux premières et dernières joutes entre Tojo et Oga. Et pour résumer ce dernier tome, eh bien nous n'avons pas grand-chose de bien foulichon puisqu'il ne s'agit que d'un recueil d'histoires courtes, histoire de finir la série sur une note joyeuse. Ce qui ne sera même pas vraiment le cas, tant les frustrations s'accumulent de tous les côtés. Donc par exemple, c'est la fan de Shoujo qui parle, hein. Pourquoi ne pas avoir fait en sorte qu'Oga et Kunieda sortent enfin ensemble? Ils ne se sont même pas embrassés ni même tenus la main, donc c'est un peu frustrant. Idem pour Kanzaki et Yuka et Shizuka qui étaient normalement censés finir avec Tojo. Et on ne parle pas non plus d'Aslan, aka le personnage capable d'arrêter d'une main le poing de Baby Bill géant, mais que l'auteur aura finalement totalement zappé. De même pour les différentes régions de l'enfer et leur chef suprême, Satan, dont on n'aura au final jamais vu le visage. C'est un petit peu frustrant aussi ça. C'est donc avec des sentiments mitigés qu'on refermera ce dernier tome de Belzebub. Voilà, donc Belzebub a retrouvé en 28 tomes aux éditions Kaze. On va s'écouter tout de suite le premier opening de l'animé de Belzebub, c'est Dadada de groupe Tamashii. Et on reviendra juste après pour la chronique du volume 8 de Dengeki Daisy.
Thank you.
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Exactly what number to do, it's time to go. You know I'm down to go down deep with it tomorrow. You with us overheated like a fitted cap, backwards, forwards, in every direction. You're crying happiness when I come check up.
Hey, it's your jump, your wet, your play my song.
Standing on my dome, man, I'm been cynical, cause man, entrepreneur with an entourage. They call me Tiger J, living extra large. Don't hate me cause I'm so beautiful.
Jay, you so
yeah, that's cute too. Who that?
Rhythm selector.
Rewind now. Rock.
Donc c'était Emily Minwo avec la chanson Play My Song en featuring avec Tiger, GKNT. On passe maintenant à la chronique du volume 8 de Dengeki Daisy. Alors je rappelle que c'est un shoujo de genre comédie, drame, romance, vie scolaire qui a été écrit par Motomi Kyosuke et prépublié dans le Betsukomi. La version japonaise est parue aux éditions Shogakukan avec un total de 16 volumes qui termine la série et la version française est parue aux éditions Kaze avec également 16 tomes. Ce volume 8 est sorti le 18 août 2011 au prix de 6,79€. Le résumé de ce tome, piégé par Chiaoru Mori et le mystérieux Akira, Kurosaki a préféré disparaître de la vie de Teru en lui avouant avoir tué son frère. Mais la jeune fille, bien décidée à retrouver son Daisy, commence à se renseigner sur son triste passé. Mais quel est donc ce crime qui a rapproché Soichiro du jeune hacker et a finalement causé sa mort? Alors, qui a dit que Dengeki Daisy était un shoujo? Et oui, encore une fois, les fidèles du genre qui cherchent les longs regards, les baisers volés et l'héroïne qui se défile à la moindre tentative de son bien-aimé ne seront pas rassasiés. Malgré cela, Kyosuke Motomi nous tient encore fermement et ne nous lâchera pas de sitôt. Des révélations sur le virus Jack of Frost sont au programme, mais surtout les flashbacks sur le passé de Kurosaki dynamisent on ne peut plus le volume et la série tout entière. L'auteur ne prend pas le parti de tourner autour du pot pendant maintes et maintes tomes, mais décide plutôt de nous en révéler toujours plus, page après page. Ce 8e volume est peut-être celui qui nous en dira le plus sur le secret bien gardé qui perdure depuis le début de la série. La violence de certaines scènes, alliée à la douceur et au sentimentalisme qui se dégage d'autres, fait la force de la lecture. Nous sommes captivés dès les premières pages, absorbant sans relâche les moindres détails qui s'offrent enfin à nous, mais aussi en appréciant les instants de délire complètement insensés, la nostalgie, mais aussi la peine. Les dessins, la mise en scène de chaque situation permettent d'accroître la qualité de la lecture. Il est impossible de rester de marbre devant Dengeki Daisy. Et après avoir dévoré ce volume, plongez-vous sans attendre dans le 9e tome qui vous réservera encore quelques surprises. Voilà, donc Dengeki Daisy à retrouver aux éditions Kaze. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Worry About Yourself First de MIB en featuring avec Bomi, et on viendra juste après pour le volume 23 de Blue Exorcist.
Baby, I just wanna talk to you. Baby, I just wanna belong to you. 믿지 못한다는 눈치 힘이 해줘가는 bullshit. Baby, talk about me. Baby, talk about you. Baby, talk about us. Baby, talk about us. 우리 여태까지 잘 참아왔지. 많이 전에 헷갈려.
C'était MIB avec la chanson Worry About Yourself First en featuring avec Bomi. On passe maintenant à la chronique du volume 23 de Blue Exorcist. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre action, aventure, comédie, drame, fantastique, vie scolaire, surnaturel, qui a été écrit par Kato Kazue, traduit par Sylvain Chollet et prépublié dans le Jump SQ. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec un total de 25 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue aux éditions Kaze dans leur collection Shonen Up avec pour le moment 24 tomes. Et ce volume 23 est sorti le 20 novembre 2019 au prix de 6,99€. Le résumé du tome, guidé par Mephisto, Rin explore le passé et découvre sidéré les différents moments clés qui ont précédé sa naissance. Tandis que Shiro et sa mère ont atteint l'âge adulte, Satan s'apprête à s'incarner complètement. Or, il s'agit de Rinka, la boule de feu bleu qui jouait avec sa mère lorsqu'elle était petite et qui lui semble particulièrement attaché. Rin continue donc d'explorer le passé de l'ordre de la Croix Vraie, mais aussi et surtout celui de sa mère, dont il sait très peu de choses au final. Il y découvre sa relation avec le père Fujimoto, il y apprend comment l'ordre tente d'incarner des démons dans des clones, et il y découvre la vérité sur Satan, son père. Le tome précédent avait débuté sur un flashback à propos de la jeunesse de la mère de Rin, nous promettant de nombreuses révélations, autant sur les origines des jumeaux que sur l'ordre de la Croix Vraie. Mais on ne s'attendait pas forcément à ce que ce flashback soit aussi long et aussi passionnant, puisqu'il occupe la totalité du tome et n'est pas encore terminé lorsque celui-ci se conclut. L'intérêt d'explorer le passé par le biais de Mephisto est que cela justifie sans peine les ellipses permettant de sauter d'un point d'intérêt à un autre, de passer d'un point de vue à un autre. Mais clairement, le personnage qui va le plus nous intéresser dans ce volume n'est autre que Satan lui-même. De son apparition dans le corps d'un clone prévu à cet effet, à sa disparition du fait de la dégradation de cette enveloppe charnelle imparfaite, on va le voir évoluer, apprendre, passer du stade de l'enfant capricieux à celui de démon surpuissant conscient de son pouvoir, hors norme. Il va clairement voler la vedette dans ce tome, même si Fujimoto et Yuri y occupent une place importante. En effet, Yuri sera celle qui parviendra à canaliser la colère et la puissance du démon, celle qu'il va entretenir son côté humain et le rattachera à notre monde. Et bien entendu, puisqu'il s'agit de Satan, tout ceci ne va durer qu'un temps. En effet, celui-ci va finir par perdre pied et laisser libre cours à ses pulsions destructrices sans que son lien avec Yuri ne se rompe. Tout dans ce tome se révèle absolument passionnant, qu'il s'agisse du développement des personnages, touchant et étonnant, des révélations sur les origines de nos héros ou encore de celles concernant l'ordre et ses complots, ce dernier ayant sacrifié de nombreuses vies humaines pour son projet inhumain. Plus on avance dans le titre, plus on se demande où se situe la frontière entre le bien et le mal, et une chose est sûre, le bien n'est visiblement pas entièrement du côté de l'ordre de la Croix Vraie. La série s'était quelque peu enlisée avec des tomes intéressants mais bien en dessous de ce à quoi Kazue Kato nous avait habitués. Toutefois, avec ce tome, elle revient au sommet et nous met une belle grosse claque. Voilà, Blue Exorcist à retrouver aux éditions Kaze. On va s'écouter tout de suite le deuxième opening de l'animé Aono Exorcist, c'est In My World de Rokies is Punked, et on reviendra juste après pour les sorties manga de la semaine.
Yeah.
Donc c'était Rookies is Punked avec la chanson In My World qui est servie de deuxième opening pour l'animé Aono Exorcist. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc on a eu des sorties aujourd'hui lundi 24 août chez Boys Love IDP avec le volume 8 de Blue Morning qui est le dernier tome de la série. Et on a aussi eu les volumes 1 et 2 de Totally Captivated. Ensuite, pour mercredi 26 août, on aura aux éditions Delcourt Onkam le volume 2 de Harry Foreta de Zéro à Héros, le volume 2 de Hero Skill achat en ligne, le volume 1 et le volume 2 du Dévoreur de Souvenirs. C'est une série terminée donc en deux tomes. Et on aura le volume 2 du Prix du Reste de ma vie. Chez Doki Doki, on aura les volumes 1 et 2 de Cube Arts. Aux éditions Kazé, le volume 9 de Hell's Paradise, le volume 22 de Rikudo, le volume 16 de Takane et Anna, et le volume 20 de Twin Star Exorcist. Aux éditions Nobinobi, on aura la sortie du volume 1 de Myria et Marie, magicienne à Paris. Et aux éditions Pika, on aura le volume 3 de Nos Précieuses Confidences et le volume 2 de Swimming Ace. Pour jeudi 27 août, aux éditions Komiku, on aura le volume 10 de Arte, le volume 11 de Divsi Valka, le volume 1 de Goodbye My Rose Garden, le volume 2 de Supinu et le volume 5 de Trace. Aux éditions Kiun, on aura le volume 1 de Dead Company, le volume 5 de Gigante, le volume 4 de Jujutsu Kaisen et le volume 6 de Lost Children. Aux éditions Mana Books, on aura le volume 1 de Dragon Quest Emblem of Roto Returns, le volume 12 de Dragon Quest Les Héritiers de l'Emblème et le volume 9 de Persona 3. Aux éditions Akata, on aura le volume 5 de Canon au bout du monde, qui sera le dernier tome de la série, le volume 1 de Moi aussi et le volume 1 de Trait pour Trait, Dessine et Tais-toi. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour vendredi 28 août avec aux éditions Kana le volume 29 de Black Butler, le volume 4 de La Voix du Tablier, les volumes 11 et 12 de Slam Dunk, la réédition double, le volume 46 de Ushijima, l'usurier de l'ombre, le volume 44 de Zeta et Karen Children et le volume 1 de Ça reste entre nous. Aux éditions Ototo, on aura le volume 16 de Bungo Stray Dogs, le volume 15 de Gate au-delà de la porte, le volume 4 de La petite faiseuse de livres Ascendance of a Bookworm, le volume 9 de Mabel Feminine Football Team, le volume 12 de Monster Musume Everyday Life with Monster Girls, le volume 1 de Sword Art Online Progressive Arc 2 Transient Barcarol. Et on aura aussi le volume 4 de The Irregular at Magic High School, enrôlement, qui sera le dernier tome de la série. Ensuite, aux éditions Naban, on aura le volume 3 de Demande à Modigliani et le volume 3 de Old Boy, la réédition 2020. Aux éditions Meian, on aura les volumes 47, 48, 49 et 50 de Kingdom, ainsi que le volume 1 de The Unmounted Undead Adventurer, avec mon super accent anglais. Aux éditions Taifu, le volume 21 de Merry Nightmare, le volume 1 de My Hero's Dream, le volume 4 de Octave et le volume 2 de Plongée dans la nuit. La dernière sortie de la semaine, ça sera aux éditions Ankama avec le volume 14 de Radiant. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, Raimei Out of Control de Move, et on viendra juste après pour la présentation de L'Ère des Cristaux.
Dancing,
Donc c'était Move avec la chanson Raimei Out of Control. On passe maintenant à la présentation du manga L'ère des cristaux, du titre original Oseki no Kuni. Alors c'est un seinen de genre action fantasy qui a été écrit par Ichikawa Haruko et prépublié dans le Afternoon. La version japonaise est parue en 2012 aux éditions Kodansha avec 11 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue le 13 janvier 2016 aux éditions Glénat avec pour le moment 10 volumes de sortie. Donc vous pourrez retrouver L'ère des cristaux dans le commerce pour un prix de 7,60€. L'âge conseillé pour le lire est de 14 ans et plus. Et il existe une adaptation en animé de 12 épisodes de 24 minutes qui sont disponibles sur ADN et qui ont été diffusés du 7 octobre au 23 décembre 2017. Alors, le résumé de cette série. Dans ce monde, la Terre a été frappée d'une chute de météores, réduisant sa surface à une simple île en forme de croissant totalement infertile. Les continents ayant été détruits se sont réunis dans le ciel pour former 6 lunes. Cependant, la Terre est maintenant peuplée par une nouvelle espèce, les cristaux. Ils sont immortels et se nourrissent de lumière. Ils sont régulièrement attaqués par les Séléniens, les habitants des 6 lunes, qui veulent récupérer le cristal dont ils sont faits pour en faire des armes et des ornements. Alors attention. Phosphophilite, voilà, c'est son nom, est l'un d'eux. Il veut combattre les Séléniens, mais à cause de sa maladresse et de sa très faible solidité, ça lui est impossible, et Phosphophilite n'a donc pas encore de tâche assignée. Mais un jour, Maître Varja, le plus vieux des cristaux, lui donne l'ordre d'écrire une encyclopédie qui relate l'histoire des cristaux et leur environnement, ce qui l'amènera à rencontrer un certain cristal nommé Cinabre. Voilà, donc l'ère des cristaux à retrouver aux éditions Glénat. On va s'écouter tout de suite le premier ending de l'anime Oseki no Kuni, c'est Kirameku Amabe de Ohara Yuiko, et on reviendra juste après pour la chronique du volume 22 de Altaïr.
Thank you.
Donc c'était Ohara Yuiko avec la chanson Kirameku Amabe qui est servie de premier ending pour l'animé Oseki no Kuni. On passe maintenant à la chronique du volume 22 de Altaïr. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre action, aventure, drame, fantastique, historique qui a été écrit par Kato Kotono et prépublié dans le shonen Sirius. La version japonaise est parue aux éditions Kodansha avec un total de 22 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue aux éditions Glénat avec également 22 tomes. Et ce volume 22 est sorti le 4 mars 2020 au prix de 7,60€. Donc autant dire que si vous attendez le volume 23... va falloir attendre un moment parce qu'il n'est pas encore sorti au Japon, donc le temps qu'il sorte au Japon puis qu'il paraisse en France, ce ne sera pas pour tout de suite. Le résumé de ce tome, l'armée de la duchesse Lérédéric déferle sur Altin, tandis que les soldats turcs tentent de défendre les remparts de leur capitale. Il reste 8 jours à tenir avant la chute de Mur, comme Zaganos l'a promis à Mahmoud. Le talent de stratège du jeune pacha sera-t-il suffisant pour tourner la situation à leur avantage? De son côté, l'armée de Zaganos tient toujours le siège de Mur. Il est temps pour la force d'invasion de lancer un assaut fatal pour pénétrer à l'intérieur de la citadelle réputée imprenable. La victoire paraît enfin à portée de main, à moins que ce ne soit l'inverse. Les deux sièges continuent de se tenir en parallèle et la première armée qui parviendra à s'introduire au sein de la forteresse ennemie permettra à son peuple de prendre un avantage certain. Mais ni les Turcs ni l'Empire du Baltrin ne semblent décidés à céder du terrain. Il nous aura fait attendre ce 22e opus, mais maintenant qu'il est là, on peut en profiter pleinement et c'est un pur régal comme les 21 tomes qui ont précédé. Dans un premier temps, l'action va se placer au sein de l'Empire turc avec d'un côté l'armée de l'Hérédéric qui tente d'envahir Altin et de l'autre le jeune Mahmoud qui défend la cité avec des moyens bien moindres. L'auteur nous y a habitués depuis le début, les retournements de situation sont nombreux et les surprises tout autant, mais qu'importe puisque cela fonctionne toujours autant. À chaque fois qu'on pense qu'un camp prend le dessus sur l'autre, nous assistons à un retournement qui redistribue toutes les cartes. Mais pour que cela fonctionne, il faut des chefs de guerre charismatiques qui anticipent les décisions de l'armée ennemie. Ainsi, cette violente bataille, se situant en pleine ville, ressemble grandement à une partie d'échecs où il faut anticiper les coups adverses. Bien entendu, notre jeune héros Mahmoud va grandement briller dans cette partie, se servant des batailles précédentes, des rencontres qu'il a fait auparavant, pour élaborer une stratégie ingénieuse reposant en partie sur le sacrifice de certains quartiers pour mieux duper son adversaire. Après cette première partie passionnante, on bascule rapidement de l'autre côté du continent avec la situation exactement inverse. Ce sont les Turcs qui assiègent les soldats du Baltrin qui sont enfermés dans leur forteresse. Celle-ci a la réputation d'être imprenable, mais Zaganos s'est bien décidé à prouver le contraire. Sur cet autre champ de bataille, nous avons le même schéma. Chaque camp va prendre l'avantage à tour de rôle, laissant supposer que la victoire est acquise, mais il y aura toujours un retournement de situation pour garder le suspense entier. Quelle que soit la bataille au vu des enjeux, et même si l'auteur utilise un schéma qu'on connaît maintenant plutôt bien, cela fonctionne toujours. On est tenu en haleine du début à la fin, bien incapable de prédire comment cela va se finir. Un tome tout simplement excellent pour une série qui se montre irréprochable depuis son commencement. Voilà, donc en attendant, si vous avez envie de suivre un petit peu Altaïr, vous avez toujours l'animé à défaut d'avoir le tome 23 qui va sortir tout de suite. Alors c'est Shokoku no Altaïr et du coup on va s'écouter le premier opening de l'anime tout de suite, c'est Razen no Yume de Seed et on viendra juste après pour la chronique du volume 4 du couvent des damnés. Donc c'était Seed avec la chanson Razen no Yume qui est servie de premier opening pour l'anime Shokoku no Altair. On passe maintenant à la chronique du volume 4 du couvent des damnés. Alors je rappelle que c'est un seinen de genre drame historique qui a été écrit par Takeyoshi Minoru, traduit par Johan Leclerc et prépublié dans le Gekkan Spirit. La version japonaise est parue aux éditions Shogakukan avec un total de 6 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue aux éditions Glénat avec également 6 tomes. Ce volume 4 est sorti le 20 septembre 2017 au prix de 7,60€. Et je rappelle aussi que la série est pour public averti à cause de la violence. Le résumé, nous sommes au 16e siècle au Saint-Empire romain germanique. Une époque où des sages-femmes innocentes pouvaient être accusées de sorcellerie, laissées seules au monde par les persécutions de l'Église, la jeune Ella est enfermée dans un couvent pour enfants de sorcières. Quelles sont les sinistres ambitions d'Edelgard, la grande maîtresse de l'ordre du Claustrum, dont Ella veut se venger ? Alors, grâce à sa manipulation qui lui a valu le vote du cardinal Giustino, l'ordre du Claustrum a gagné le droit d'accès à la bibliothèque du Vatican, octroyant à Edelgard des connaissances infinies. Mais est-ce là son véritable objectif ? Tandis que la dangereuse femme se rapproche de son but, Ella et sa bande tentent tant bien que mal de survivre tout en faisant leurs preuves. Car se hisser parmi les 5 premières places leur garantirait un poste de surveillante et leur permettrait ainsi de se rapprocher d'Edelgard. Avec ce début de volume, la série fait un pas en avant puisqu'il est dans un premier temps question des ambitions d'Edelgard, l'impitoyable dirigeante de l'ordre du Claustrum. Si ces révélations semblent venir assez facilement, notamment parce que la mère supérieure se confie sans sourciller à un individu qui pourrait très bien la trahir, l'intrigue prend un peu plus de sens et Edelgard devient plus que jamais l'individu à abattre, et ce même si Ella et les siennes n'ont pas vent de ces révélations. Mais aux yeux du lecteur, le danger est là, même si toute cette séquence a pour mérite de rendre l'antagoniste ambigu et finalement simple désireuse de paix. Enfin, encore faut-il que la maîtresse de l'ordre du Claustrum nous ait tout dévoilé. La suite du tome se révèle plus typique de la série puisqu'elle se concentre sur la bande toujours plus grande formée par Ella. Désormais 5, les jeunes filles doivent survivre tout en évitant les pièges que d'autres ont connus, en tentant de résister à la domination du Claustrum. Minoru Takeyoshi développe pas mal d'éléments sur l'ensemble de ce tome. Il y a d'une part un aspect survie qui n'est pas sans rappeler Golden Kamuy qui est paru aux éditions Kiun, bien que moins orienté vers la chasse et davantage focalisé sur tout ce qui s'offre aux 5 camarades, reste d'épluchures y compris. En parallèle, c'est bien la solidarité entre les demoiselles qui est de mise. Pour que cet élément fonctionne, le mangaka n'hésite pas à apporter davantage de précisions sur les passés des unes et des autres, de manière à ce que le lecteur se prenne de sympathie pour chacune d'entre elles. Et la formule fonctionne, tant on est amené à comprendre les caractères de chaque jeune fille, et de fait, on ne peut que souhaiter leur réussite. Mais cet opus se démarque aussi par l'amitié qui se consolide au sein du groupe, car outre des alliés pour leur survie, les 5 compères vont désormais former une bande de véritables amis, une troupe qui endure le pire ensemble, mais qui est aussi capable de partager des petits instants de joie. Ce n'est donc pas une tare que le récit sache se poser un peu entre deux séquences de chasse ou deux instants où les psychologies et remords seront développés. Il est même étonnant que l'auteur emprunte une voie si douce vers la fin du tome, ce qui laisserait presque présager le pire. Et en effet, le dernier chapitre vient nous secouer, nous rappelant l'univers rude dans lequel évoluent les 5 amis, si bien qu'on remet pour la première fois en question leur survie de manière sérieuse. Et si les 2 tomes restants partaient dans une direction encore plus sombre, c'est la question qu'on se pose, l'impatience de lire la suite étant bien là. Voilà, donc Le Couvent des damnés à retrouver aux éditions Glénat. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, Neko to Inu de Maya Sakamoto, et on reviendra juste après pour finir l'émission avec une news musicale.
わからなくてだけ 傷つけた泣いてしまったそれなのにまたすぐ手をつないだ私のレコード聞きながらあなたの目で月を
Voilà, donc c'était Maya Sakamoto. Merci, merci. Avec la chanson Neko to Inu. Donc, traduit en français, ça fait chat et chien. Voilà. Ça se sentait que ça parlait de ça. On va maintenant finir l'émission avec une petite news musicale. Les vétérans du rock Bucktick sortiront un nouvel album le 21 septembre, intitulé donc Abracadabra. Il proposera 14 titres, je vais y arriver, dont de nouvelles versions de Kemono Tachi no Yoru et Datenshi, ainsi que la chanson-titre et la face B Kogoeru de leur prochain single Moonlight Escape, qui sortira dans deux jours, le 26 août prochain. L'album sera disponible en 5 éditions. Les éditions limitées de luxe seront complétées soit par un disque Blu-ray, soit par un DVD avec les clips musicaux de Kemono Tachi no Yoru Yoro version et Kogoeru, ainsi qu'une version multi-angle de la vidéo de Moonlight Escape. L'album sera également publié en édition régulière sur CD uniquement et en format analogique, cassette et numérique. En outre, Bucktick a récemment annoncé qu'il diffusera en streaming les anciens albums live qu'il a produits depuis qu'il a rejoint son label actuel, Lingua Sunda, via sa chaîne YouTube tous les mercredis à 21h, donc heure du Japon, jusqu'au 9 septembre. Donc si certaines diffusions de Bucktick Wednesday live streaming sont déjà terminées, voici quand même le programme des autres diffusions qui sont à venir. Donc mercredi prochain pour la sortie de leur single Moonlight Escape, on aura la diffusion donc sur leur YouTube The Day in Question 2017, Day One. On aura le 2 septembre Tour Number Zero et enfin le 9 septembre Locus Solus no Kemono Tachi. Voilà, donc pour terminer cette émission, on s'écoutera Moonlight Escape, justement le prochain single à sortir de Bucktick. Demain matin, vous retrouverez Philippe de 7h à 10h pour la matinale et de 10h à 11h30, ça sera Roland pour l'émission Bonjour. Moi, vous pourrez me retrouver peut-être vendredi prochain, peut-être lundi prochain, on ne sait pas, ça sera la surprise. Voilà, donc vendredi, peut-être de 18h30 à 19h pour l'émission Cordialement Geek, sinon ça sera lundi prochain, peut-être, toujours, de 21h à 22h pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt!